Cette deuxième séance, elle va se centrer autour d'un ouvrage, Les frontières de la citoyenneté, qui vient de paraître au PURE en 2024 et qui fait suite notamment à un colloque organisé en 2017 à l'Université de Paris 7 par Federico Tarragoni et par Myriam Boussava-Brava, qui s'appelle La citoyenneté en débat. Et Jani Pellavi.
Et à Sciences Po, c'est-à-dire que c'était un colloque conjoint. Ouais, donc Paris 7 et Sciences Po, donc il y avait effectivement Federico et Myriam, et Réjeanne Sénac et moi-même dans les organisatrices du côté de Sciences Po. Et également, il faut mentionner le regretté Étienne Tassin. Qui
Merci
avait organisé avec
à toutes
nous
les deux
ce,
pour ces
ce colloque.
Compléments, mais je comptais sur Federico, à vrai dire, pour faire la présentation de l'historique de cet ouvrage et du cadre dans lequel cette initiative a été lancée. Donc Federico, si tu veux compléter, surtout n'hésite pas, s'il te plaît, sur le colloque à l'origine et le projet à l'origine de cet ouvrage.
Eh bien, je ne sais pas exactement ce qui a été dit, mais je vais aller très vite. Enfin, c'était un colloque qu'on a organisé un peu avec la volonté déjà de mettre toutes les disciplines à contribution, et en particulier la sociologie, l'histoire, la science politique et les études aréales. Mais il y avait aussi des participations de psychologues, de linguistes. Enfin, c'était vraiment un colloque... sciences sociales dans toute sa diversité, des géographes, et je reprends mon souffle. Et puis il y avait la volonté en fait de questionner ce concept de citoyenneté qui est un concept extrêmement solide, on va dire, puisqu'on a toujours l'impression de savoir ce dont on parle quand on dit citoyen, et finalement là aussi un peu dans le prolongement de ce qu'on vient d'écouter avec Nicolas Duvoux, l'auto-perception de soi comme citoyen est quelque chose qui peut être en décalage avec les conditions objectives de la citoyenneté. C'est-à-dire, on considère que sa façon de voir la citoyenneté n'est pas en accord avec la façon dont, par exemple, un État distribue les cartes de la citoyenneté. Et puis, on peut mettre en avant un certain nombre d'identités, des identités de genre, des identités postcoloniales et d'autres, qui là aussi ne vont pas dans le sens de la définition hégémonique, on va dire, de la citoyenneté. Donc ce colloque, qui était une vraie réussite, qui a été mené entre l'Université Paris Cité et Sciences Po, a donné lieu donc à ce livre... qu'on va vous faire circuler, que vous regardiez, et qui est une sélection des contributions qui ont été proposées, avec une postface, donc Étienne Tassin, qui était mon collègue à Paris Cité, qui était un ami, et qui est décédé malheureusement 2 ans après, et dont on a publié donc un article, donc c'était un philosophe, quelqu'un qui faisait de la philosophie politique, et dont on a publié un article pour clore un tout petit peu le livre. Voilà.
Bien, donc moi je vais essayer de vous présenter un peu quelle est la logique de l'ouvrage, car il y en a une. Ce n'est pas toujours le cas dans les ouvrages collectifs, surtout là, comme le disait Federico. Cet ouvrage réunit des approches vraiment différentes en termes de discipline et aussi de façon de se saisir de cet objet qu'est la citoyenneté. Donc ça peut avoir des fois une allure un peu artificielle, mais là, il se trouve que les contributions que réunit cet ouvrage manifestent une cohérence au-delà de leur disparité. Alors ce que j'ai tenté de faire avec ma collègue Réjeanne Sénac, qui fait partie des coéditrices de l'ouvrage et qui s'excuse parce qu'elle a été retenue à Sciences Po par ses fonctions de directrice du département de sciences politiques, mais elle sera là à travers nos échanges et nos présentations. Ce qu'on a essayé de mettre en évidence dans ce chapitre introductif, c'est que les différentes contributions partagent un certain regard sur la citoyenneté qui est un regard critique vis-à-vis d'une conception un peu restrictive et pourtant majoritaire de la citoyenneté. Ce qui unit les différentes contributions dans l'ouvrage, c'est le fait de regarder la citoyenneté aux marges. Là où on considère, les différents contributeurs considèrent qu'elle s'actualise autrement que sous la forme habituelle, c'est-à-dire une citoyenneté comme statut. Le fait de définir les citoyens comme possédant un ensemble de droits et de devoirs, donc une vision plutôt passive de la citoyenneté, on est les détenteurs passifs de l'ensemble de droits et de devoirs, et finalement la citoyenneté ne deviendrait évidente, ne deviendrait effective que par intermittence au moment des élections. C'est le geste du vote qui viendrait incarner par excellence ce qu'est la citoyenneté. Et dans l'ouvrage, c'est une autre vision de la citoyenneté que tous les chapitres développent. Une vision qui fait porter le regard plutôt sur les tensions, les contradictions qui vont bousculer les contours établis de la citoyenneté démocratique et qui permettent de tracer de nouvelles cartographie. Il y a donc dans cet ouvrage une vision de la citoyenneté qui met en avant des exigences de participation, d'inclusion, qui met en avant des pratiques d'expression, de contestation. Donc il y a une valorisation dans la conception même de la citoyenneté, de la pluralité, de la critique et même du conflit. On a intitulé, avec Réjeanne, ce chapitre introductif « La démocratie hors d'elle », qui est avec un point d'interrogation, et on a voulu par là exprimer deux choses différentes. D'abord, le fait qu'il y avait un objet commun de réflexion dans cet ouvrage, qui est une interrogation sur la manière dont la citoyenneté s'actualise, quand elle n'est pas réduite justement à sa dimension de statut juridique, et quand la démocratie n'est pas réduite à un ensemble de procédures, de réglementations qui constituent ce qu'on appelle la démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on considère que le domaine du politique, c'est la représentation politique, et on le limite à ça. Mais dans ce titre, donc la démocratie hors d'elle, il y a aussi une interrogation qui est peut-être plus délicate, mais qu'on n'a pas voulu éluder, qui est une problématique autour du devenir de la citoyenneté démocratique, justement quand on valorise le pluralisme, la critique, voire le conflit. C'est la question de savoir si, au fond, à force de déborder, d'aller au-delà d'elle-même, la citoyenneté ne sort pas de son giron démocratique. Est-ce que on n'a pas ici un risque, en tout cas, que la citoyenneté sorte de ce qu'on appelle la démocratie libérale ? Et on voit que les différentes contributions manifestent plus ou moins explicitement le fait que le rapport entre la citoyenneté démocratique et l'état de droit, ce qui est une autre face hein, de la démocratie, ou le rapport de ce qu'on appelle en philosophie la citoyenneté au libéralisme politique, c'est-à-dire la défense des libertés. Ce rapport est parfois complexe. Et c'est par cette idée aussi qu'on se demandait si la démocratie n'était pas hors d'elle. C'est l'idée qu'à force de conflictualiser, etc., est-ce qu'on ne sort pas de ce giron de la démocratie libérale ? Donc c'est le double questionnement que synthétise le titre même de l'ouvrage, hein, « Les frontières de la citoyenneté ». Le concept même de frontières ici est à entendre de manière processuelle, c'est-à-dire ce ne sont pas des barrières. Le concept de frontière ici, c'est plutôt renvoie plutôt au fait que la citoyenneté, c'est une forme de un espace mouvant que les acteurs, que les citoyens vont habiter et investir. Et il y a l'idée que c'est en habitant cet espace qu'on rend effective la citoyenneté. Et les limites de la citoyenneté se franchissent par la lutte contre les injustices. Et donc il y a une série d'exemples de lutte contre différentes injustices qui montrent que c'est par ce biais-là qu'on va repousser les frontières de la citoyenneté, c'est-à-dire l'élargir, en faire un espace habitable par tous. Et les chapitres du livre concourent à montrer que les frontières de la citoyenneté forment cet espace mouvant, qu'elles élargissent le domaine du politique par rapport à une vision plus restrictive, le politique devenant un horizon d'attente, de promesses. Hein, on considère la citoyenneté comme autant de promesses, par exemple la promesse d'égalité, qui sont faites aux citoyens. Et pour que ces promesses soient tenues, il faut s'investir dans l'action, la revendication, voire dans la critique. Et donc, on prend la citoyenneté comme un champ d'expérience, de pratique, d'action. Mais ces frontières conduisent aussi à réfléchir à ce qui borde et déborde la démocratie. Alors, pas seulement... dans le sens où l'ouvrage donne une place centrale à l'étude des marges, des groupes marginaux, que est la citoyenneté quand on se place aux marges de la société, mais aussi la réunion des analyses dans cet ouvrage pose la question, je l'ai évoqué, d'un éventuel débordement hors des cadres de la démocratie libérale. Et il y a aussi dans cet ouvrage des analyses de ce que seraient les formes d'un tel débordement et quelles en seraient les conséquences. Alors je vais très brièvement présenter les trois parties pour que vous voyez un peu comment s'organisent ces différents chapitres. Il y a effectivement, je l'ai dit, une logique. Le double questionnement que je viens de présenter sur les frontières de la citoyenneté débute dans la première partie par l'examen des luttes qui ont façonné l'histoire de la citoyenneté démocratique. Donc il y a un regard historique et puis c'est surtout un examen des tensions que ces histoires nous ont laissées en héritage. Des tensions qui se retrouvent de manière plus ou moins recomposée dans les luttes actuelles, les luttes citoyennes, et qui constituent les frontières de la citoyenneté en mettant l'accent sur les dilemmes, les paradoxes qui habitent encore la citoyenneté et qui nous viennent de ces anciennes luttes. Alors... dans plusieurs des mouvements historiques qui sont analysés dans l'ouvrage, les protagonistes sont venus investir une sphère de revendication, d'action, de lutte, se situant, comme le dit Hélène Canquin dans le titre de son chapitre, « aux marges du politique ». Et donc la citoyenneté est ici recherchée de manière plus ou moins délibérée, en se tenant à l'écart de la politique, quand elle est centrée sur le vote, sur les partis politiques qui relèvent de la démocratie représentative. Et c'est ce qu'explique le premier chapitre de l'ouvrage, celui de Véronique Ward-Viarne, qui est consacré au mouvement de protection des oiseaux en Angleterre à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ça peut paraître anecdotique. Deux minutes, d'accord. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait, elle montre par ce biais-là qu'il y a un mouvement de civique pour les femmes qui se tient en dehors du combat pour le vote des femmes. Un autre chapitre, le deuxième chapitre de la première partie, c'est la contribution d'Hélène Canquin qui s'intéresse au combat pour le droit de vote des femmes aux États-Unis. Donc je vais très vite, encore plus vite que ce que j'avais prévu.
Tout cela, je vais les faire. D'accord. Parce que je suis obligée de. Le gender et le post-colonial, je vais les faire.
De tenir d'accord. Mon rôle de gardienne de
parce
la
parce que
ce n'était
pas ce qui était prévu, mais bon, d'accord. Donc j'ai
des indications de temps, mais prends plus que deux minutes, bien sûr.
D'accord, bon. Mais je vais laisser alors à Myriam le soin de présenter ces chapitres. Simplement, les. celui de Lucie Ray, je pense que non. Voilà. Donc Lucie Ray qui, elle aussi, dans une perspective historique, rappelle ce qu'est la complexité des héritages de la citoyenneté démocratique. Elle prend le cas de la France et de l'invocation actuelle des valeurs de la République, notamment dans le cadre de l'éducation nationale. Elle revient pour étudier ce discours des valeurs de la République sur le contexte du républicanisme du XIXe siècle, et elle revient à la pensée de Pierre Leroux. Et elle nous montre par ce biais que ce langage des valeurs de la République est éminemment ambivalent et qu'il est animé de tensions qui sont les tensions mêmes de la devise républicaine. Puis, il y a un chapitre que va nous présenter donc Myriam, qui est écrit par Kamal Sadiq, sur la citoyenneté postcoloniale, parce qu'évidemment, quand on parle de tensions et de contradictions de la citoyenneté démocratique, il faut évidemment s'intéresser au passé colonial des sociétés démocratiques. Le chapitre de Sandeep Bakshi, qui en parle également, qui est consacré à la citoyenneté queer, donc les mouvements LGBTQI+. Puis on passe à une deuxième partie où là, qui est vraiment, et c'est plutôt Federico qui va parler des chapitres de cette partie, qui est vraiment concentré sur l'expression du désaccord, du conflit, dans ce qu'on appelle en sciences sociales la citoyenneté critique. Donc il y a une notion de citoyenneté critique qui est abordée ici et au travers de quatre chapitres. Ce que je voudrais peut-être souligner à propos de ces quatre chapitres, en les comparant les uns aux autres, c'est qu'ils soulèvent la question de la radicalité de la citoyenneté critique et de son rapport complexe à la démocratie. La question que soulèvent les quatre chapitres quand on les compare les uns aux autres, c'est de savoir si cette citoyenneté protestataire, qui revendique une forme de politisation par la critique, par le conflit, est-ce que cette citoyenneté protestataire, insurgente, il faut l'inscrire dans un contexte, et c'est là l'interprétation d'Anne Muxel, un contexte de risque de déconsolidation démocratique. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose de risqué, de périlleux pour la démocratie elle-même qui éroderait la démocratie? Ou bien, et on a plutôt de ce côté-là les chapitres de Arthur Guichou et de Federico, ou bien est-ce qu'il faut voir dans cette citoyenneté protestataire, insurgente, plutôt un potentiel de réinvestissement démocratique qui permettrait justement de renforcer la démocratie. Ou bien, et c'est plutôt le chapitre que j'ai coécrit avec Réjane Sénac, ou bien de se dire que cette démocratie, cette citoyenneté critique, elle a deux faces. L'une qui est assez enthousiasmante, qui est une face philosophique, où on fait de la critique l'aiguillon même de la participation, donc on donne des vertus vraiment positives à cette citoyenneté critique, mais il y a aussi une phase politique, qui était l'objectif qu'on s'était fixé dans ce chapitre, c'était de voir politiquement, en termes de vote pour le tout, comment se concrétiser une citoyenneté critique, les critiques à l'égard de la démocratie exprimées par les citoyens. Et là, c'est une face un peu moins positive, voire angoissante, en tout cas négative, puisque ce que montre l'étude du vote des citoyens critiques l'enquête que nous avions faite, c'est qu'il y a quand même assez grande propension des citoyens les plus critiques à assumer de sortir du cadre démocratique, puisqu'ils font porter leurs critiques jusque à la démocratie comme régime en tant que tel. Et ça se traduit par un vote pour les partis d'extrême droite, pour le dire très, très concrètement. Troisième partie de l'ouvrage, elle met l'accent, cette troisième partie, sur, et c'est tout à fait concordant avec les deux premières parties, sur une approche de la citoyenneté comme action, le fait d'agir dans le monde. Être citoyen, c'est agir, et donc on met l'accent sur tous les mouvements de citoyenneté par le bas. Comment s'éprouve la citoyenneté? Comment elle est mobilisée? Ce sont aussi tous les processus de démocratisation qui sont ici analysés. En contexte, il y a trois cas nationaux. La France, avec la question traitée par Philippe Coulangeon de l'action culturelle. Quels sont les paradoxes et les tensions de la démocratisation en matière de culture? Le cas de la Russie, avec une étude par Karine Clément des aspirations citoyennes, d'une citoyenneté par le bas. Et là aussi, on voit qu'il y a une citoyenneté allibérale qui est très active. Donc encore une fois, des tensions fortes entre la participation citoyenne et puis le respect des libertés et de l'état de droit. Et la dernière étude dans cette troisième partie, c'est celle de Valentine Le Borgne de Boisriou sur le cas de l'Argentine, où elle montre qu'en fait il y a deux visions du peuple, un peuple idéalisé, un peuple de chair, qui ont marqué la construction de la citoyenneté en Argentine du XXe siècle à nos jours. Et puis cette conclusion, comme l'a dit Federico, donc la contribution d'Étienne Tassin, qui est on a repris un des chapitres qu'il avait écrit précédemment, où on retrouve toutes les thématiques et il montre que il y a un agir commun, il est dans cette quête d'un agir commun dans une communauté monde, et ça permet de vraiment conclure sur un des traits saillants de l'ouvrage, c'est que repousser les frontières de la citoyenneté, ce n'est pas simplement étendre les droits, une extension des droits, mais c'est aussi déployer une forme d'agir en commun. Et lui le fait en plaidant aussi, en un sens plus commun des frontières, pour ouvrir les frontières, c'est-à-dire résister aux assignations identitaires et faire l'éloge de l'étranger, de l'étrangeté, de ce qui nous conduit hors de nos frontières.
Merci beaucoup.
Désolée d'avoir
merci
été longue.
Pour cette présentation tout à fait exhaustive, mais tu avais beaucoup de choses à présenter. C'est pourquoi on comprend tout à fait qu'il y a besoin d'un peu plus de temps.
Je vais vous présenter, le projet de ce livre avec, un angle qui est à la fois complémentaire et un peu différent par rapport à ce qui vient d'être dit. Comme l'a dit Janie, enfin, il m'incombe de vous présenter surtout la partie sur ce qu'on appelle la citoyenneté critique. Mais je voudrais quand même que vous ayez en amont une image en fait, de la complexité de ce qu'est la citoyenneté, quand on l'aborde vraiment avec le regard des sciences sociales. Je disais tout à l'heure, on sait à peu près toujours de quoi on parle quand on dit la citoyenneté ou le citoyen. On se réfère au grand texte, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, sachant que cette déclaration a été complétée par une femme qui s'est fait guillotiner quelques années après, qui s'appelle Olympe de Gouges, qui a écrit une déclaration des droits de la femme, de la citoyenne. Donc, vous voyez comment les choses sont déjà d'emblée compliquées, puisque cette même déclaration qui a été énoncée en 1789, a donné lieu à des revendications immédiates d'élargissement de la part donc de quelqu'un qui représentait la voix des femmes, enfin qui se faisait en porte-parole de la voix des femmes. Donc parler de la citoyenneté, c'est parler d'emblée de la porte qui s'ouvre pour ceux qui réclament au nom d'une citoyenneté énoncée l'élargissement de ce même principe de citoyenneté. Donc au fond, parler de la citoyenneté, c'est parler de l'aspiration à être citoyen, tout en parlant aussi de ce qui fait le citoyen. Donc, pour simplifier les choses, je dirais que, et ça c'est un tout petit peu ce que nous apprend un grand sociologue de la citoyenneté qui est Marshall, qui a écrit un article assez important dans les années 50, la citoyenneté, elle est composée en quelque sorte d'un ensemble de statuts d'accord ? Enfin, tout à l'heure, Jeannie en parlait. Ces statuts sont des statuts matériels, socio-économiques. Hein ? La base même de la citoyenneté, par exemple, c'est le fait de pouvoir être propriétaire de soi-même. Par définition, les esclaves ne sont pas citoyens, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que les esclaves sont le bien de quelqu'un d'autre. Donc, avoir la propriété de son propre corps, de la jouissance de son corps, c'est déjà une condition fondamentale de la citoyenneté. Donc, si on porte cette condition à l'extrême, évidemment, il y a des statuts socio-économiques qui rendent l'exercice de la citoyenneté quasi impossible. Dans des sociétés fondées sur le travail, le chômage, comme le disait déjà Hannah Arendt, est une condition d'exclusion, finalement, pour la citoyenneté. Et puis, il y a des statuts, bien sûr, des statuts qui ne sont pas purement économiques, des statuts culturels, par exemple. On a beaucoup parlé des droits culturels, de justement le droit à la différence. Hein. Par exemple, enfin tous les combats pour la reconnaissance de l'autochtonie ou des droits des populations autochtones au Canada, voilà, sont des combats citoyens qui élargissent les statuts, disons, de la citoyenneté. Puis il y a des statuts sexuels, hein, hommes, femmes, mais aussi les statuts non binaires, bien sûr, qui vont dans le sens de cet élargissement, et Myriam nous en parlera tout à l'heure. Et puis, il y a le statut national. La citoyenneté, c'est la citoyenneté stato-nationale, que personnellement, je n'ai pas par rapport à la France, pas encore, puisque je ne suis pas citoyen français, mais je suis fonctionnaire de l'État français, ce qui a beaucoup de mal à comprendre Bardella, qui considère que les fonctionnaires ne devraient pas être issus d'une autre nationalité que la nationalité française. Or, justement, l'Union européenne impose la circulation du travail et du capital. Et donc, dans la circulation des travailleurs, il y a la possibilité de l'accès à la fonction publique, et notamment l'enseignement supérieur et la recherche, figurez-vous, pour toute la planète. C'est-à-dire que n'importe quelle personne issue d'un autre pays qu'est la France peut devenir maître de conférence ou professeur des universités dans ce pays, jusqu'à maintenant. Donc, des statuts nationaux, mais aussi, bien sûr, des statuts qui sont coloniaux ou post-coloniaux, puisque lorsqu'il y avait des empires, et même après la fin des empires coloniaux, bien sûr, il y a eu des luttes des populations issues de ces pays, et là aussi, Myriam approfondira cette question, pour la reconnaissance d'un statut citoyen. Donc, vous voyez comment les choses sont compliquées lorsqu'on se borne à dire « le citoyen, c'est l'électeur ». Et il joue une fois tous les 5 ans, en France, puisqu'on tend à considérer qu'il y a une élection qui compte, puisque le président de la République a beaucoup plus de pouvoir que n'importe quelle autre institution dans ce pays. Et donc ce serait un peu déprimant de penser qu'on est citoyen une minute au moment où on dépose ce bulletin dans l'urne, sachant que moi, par exemple, je ne pourrais jamais l'être dans ce pays. Puisque justement, si on se borne à considérer le citoyen comme électeur, bah, y a bien sûr des gens qui n'ont pas le droit de vote dans ce pays et qui ne devraient pas l'être. Donc il y a bien sûr aussi le statut électoral. Il ne faut jamais oublier que ce statut est connecté à quelque chose d'autre dont on ne parle jamais, qui est l'éligibilité. Hein. Il y a le droit de vote, mais il y a aussi le droit à l'éligibilité. Il y a eu des combats très importants au XIXe siècle, par exemple de la part de la classe ouvrière, pour le droit à l'éligibilité, qui sont allés de pair avec les combats pour l'élargissement du suffrage, d'abord masculin en 48, et puis bien sûr, il faudra attendre beaucoup de décennies encore pour le droit de vote aux femmes. Et puis il y a des droits, donc j'ai dit des statuts, mais aussi des droits. Et les droits, c'est quand on dit que le citoyen, c'est aussi un sujet de droit, bien sûr. Un sujet de droit, c'est-à-dire... quelqu'un qui a des droits qui lui viennent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par exemple, mais aussi des droits constitutionnels. Hein. Mais, par exemple, je vous rappelle que les professions intellectuelles ont le droit constitutionnel à la critique, hein, selon la Constitution de 58. Donc voilà, il y a un certain nombre de droits dont on dispose, que parfois on oublie, et qui font la citoyenneté. Et enfin, il y a un dernier secteur de prérogatives et donc de pratiques qui définissent le citoyen, que sont des aspirations. Et là, pour le coup, les aspirations relèvent de l'imagination politique des citoyens. Je disais tout à l'heure, dès que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été énoncée, il y en a eu qui ont réclamé l'élargissement du statut de base de la citoyenneté en termes sexuels et donc électifs. Eh bien, ces aspirations s'exercent sur tous les statuts de la citoyenneté. Et donc moi j'aime bien dire que le citoyen n'est rien d'autre que l'individuation de la démocratie ou l'individuation de l'État-nation, hein, suivant la façon dont on pense le citoyen. C'est-à-dire, le citoyen, c'est l'image individualisée, au fond, d'une société en tant que société politique. Et donc, si on parle de la démocratie, on va dire que c'est l'individuation de la démocratie. C'est la façon dont la démocratie est représentée, perçue, habitée et mise en pratique par chacun de nous. Et donc, il va de soi que l'ensemble des pratiques qui visent à élargir la citoyenneté dans les mouvements sociaux, par exemple, relèvent pleinement de la citoyenneté. Donc la citoyenneté, c'est à la fois l'ensemble des statuts et donc la dimension statique, au fond, de l'objet, mais c'est aussi la dimension subjective, on le disait tout à l'heure, on a beaucoup parlé avec Nicolas Duvoux de cette dimension subjective, la dimension aspirationnelle, si vous voulez, et donc dynamique, de ce même objet. Donc c'est ce qui fait une société dans un temps T figé. Dans la société française aujourd'hui, il y a tant de personnes qui sont citoyens et tant d'autres personnes qui ne sont pas citoyens. Les exilés en attente d'une délibération sur leur cas de demande de statut de réfugié, par exemple, ou les sans-papiers, ne sont pas des citoyens. Voilà, ce n'est pas très compliqué. Les chômeurs ont moins de prérogatives citoyennes que les actifs, et ainsi de suite. Mais la citoyenneté, c'est aussi l'évolution dans le temps de ces mêmes statuts grâce aux combats et aux luttes de celles et ceux qui imposent un élargissement de ces statuts par rapport à leur vécu, donc par rapport à la discrimination qu'ils pâtissent, par rapport aux injustices qu'ils pâtissent dans le travail, dans les rapports sexuels, dans les rapports sociaux de domination plus généralement, qu'ils touchent justement à la dimension du sexe, de la classe, de la colonialité, et ainsi de suite. Donc dans l'ensemble de ces aspirations qui font la citoyenneté et qui critiquent, bien sûr, la définition objective, statique et étatique de la citoyenneté, il y a des jugements qui sont, comme le disait Janie tout à l'heure, différents. Et ces jugements viennent aussi du fait que la normativité qu'on tâche de chasser des sciences sociales par la porte, revient par la fenêtre quand on travaille sur la citoyenneté et la démocratie. Puisque justement, dès lors qu'il est nécessaire d'établir un jugement sur ces formes de citoyenneté critique, aspirationnelle, eh bien certains y verront une mise en péril de la démocratie telle qu'elle est, et d'autres y verront au contraire une possibilité de réinvention de la démocratie. Mais c'est justement la question du rapport aux valeurs qu'on entretient vis-à-vis de l'objet de citoyenneté, qui est un rapport toujours socialement produit, y compris chez le sociologue, qui fait qu'on peut y voir une chose ou l'autre, puisqu'au fond, il y a les deux choses dans l'une. Hein, parce que ces aspirations peuvent effectivement menacer la démocratie, hein, et conduire par exemple à des dérives autoritaires, etc., ou au contraire, l'approfondir. Pourquoi ? Parce que justement, dans ces aspirations sont mises en jeu des visions de la justice démocratique avec lesquelles le sociologue peut être plus ou moins d'accord. Hein. L'exemple même, ça a été tout le débat qu'il y a eu sur les indigènes de la République, hein, qui a été un débat qui a divisé profondément la communauté des sociologues, par rapport entre ceux qui y voyaient justement des aspirations légitimes qui vont dans le sens de l'élargissement de la démocratie et d'autres qui y voyaient au contraire une remise en cause de l'universalisme républicain et de la neutralité de la République vis-à-vis de ces questions-là. Bon. On ne peut pas tellement mettre de côté les jugements de valeur du sociologue. Donc, l'idéal, c'est de les intégrer, au fond, dans l'analyse, de façon, bien sûr, réflexive. Et pour complexifier une fois de plus tout ce schéma, et je cède la parole à Myriam, il faut aussi prendre en compte que tout ce schéma que j'ai fait de la citoyenneté comme ensemble de droits, et d'autres diraient de devoirs, mais voilà, je me limiterai aux droits, de la citoyenneté comme ensemble de statuts, et de la citoyenneté comme ensemble d'aspirations, il ne faut pas oublier que toutes ces choses-là sont codées avec notre logiciel occidental, notre logiciel européen, notre logiciel d'une certaine modernité, et que donc il y a tout un Nord-Occident qui pense ces mêmes catégories de façon différente. Et donc c'était toute la contribution des études d'Aréal dans ce colloque. Et donc il ne faut pas oublier que dans cette même analyse sociologique de la citoyenneté dans ses évolutions, eh bien, aujourd'hui, à l'époque où on cherche à raisonner de façon globale et connectée, comme aiment le dire les historiens, il faut prendre en compte les cadrages aussi extra-occidentaux ou critiques de la définition eurocentrique de la citoyenneté de l'objet. Et ça, c'est très, très important, puisque, bien sûr, la citoyenneté est faite de discours et de pratiques, mais les discours performent les pratiques, et donc la façon même de dire le citoyen est dépendante des langues, est tributaire des langues. Et donc là, il y a un champ absolument énorme d'histoire conceptuelle comparée ou de sociologie politique comparée qui s'ouvre à nous. Qu'est-ce que le citoyen en Chine? Qu'est-ce que le citoyen en Inde? Qu'est-ce que le citoyen en Amérique latine? Eh bien, bien sûr, ce ne sera pas exactement cette lecture occidentale, eurocentrée, qui fait d'ailleurs remonter de façon classique le citoyen à la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, bien sûr dans ces autres occidents, dans ces autres cultures, il y a d'autres filiations, d'autres archéologies et d'autres histoires.
Merci Federico. Alors tout d'abord, j'ai fait ça rapidement, mon PowerPoint, et il y a des fautes d'orthographe terribles. Donc la première, c'est sur Jani, c'est pas Pébalet, mais c'est
Pélabaye.
Voilà. Donc vous
c'est dans le désordre.
Oui, c'est ça. Mais vous allez en trouver plusieurs et je... voilà. Alors là, moi, j'ai m'intéressé plus particulièrement à la première partie sur les trois dont parlait Jani. Et je vous rappelle le titre qu'elle a annoncé, c'est donc « Des luttes et des tensions en héritage pour une citoyenneté pluralisée et élargie ». Donc là, tous les mots sont extrêmement intéressants. On voit que l'approche est en effet historique. Hein. Donc vous avez l'héritage et le fait aussi que l'héritage, on ne peut pas du tout le passer sous le tapis. Hein. Donc il y a des héritages dont on veut volontiers. Si par exemple, on a un gros patrimoine, comme nous l'a fait penser la présentation précédente, mais il y a des héritages dont on se passerait bien, d'accord ? Mais là, en fait, ils sont toujours là. L'autre question, c'est que vous voyez que citoyenneté, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé aussi, mais ce qui est très important, ce sont les adjectifs qu'on accole à citoyenneté. C'est ce qui vous montre bien que les qualificatifs, hein, vous vous rappelez vos cours de grammaire précédents, l'adjectif qualificatif, donc, ça nous donne des informations sur quel type de citoyenneté on parle. Et lorsqu'on dit pluralisé, on prend déjà position, c'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a plusieurs types de citoyenneté. Et que la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il y a une citoyenneté qui va être plus valable qu'une autre, hein. Donc là, c'est des questions qui sont des questions qui seront l'objet du discours, mais qu'on ne peut pas trancher directement, sauf à établir évidemment une vision politique de ces citoyennetés et donc de prendre une position évidente. Alors, dans cette partie, je vais m'intéresser à quatre chapitres, dont deux traitent directement du genre, qui sont historiques, et deux sont sur le postcolonial. Ces chapitres, comme l'a dit Federico, sont écrits par des collègues qui travaillent en études aréales, c'est-à-dire des gens qui étudient, donc, pour ce qui est mon cas et celui de mes collègues, British and American Studies. Donc, pour la France, je suis un professeur de civilisation britannique. Mais quand je vais à l'étranger, je suis a professor of British history. Donc voilà, c'est la différence. Donc voilà ce que c'est que la civilisation. La civilisation, ça peut donc être beaucoup de choses. Et les études aréales, c'est une autre façon de décrire et c'est une nouvelle façon de décrire. Donc dans les études aréales, on a quasiment toutes les disciplines que vous pouvez connaître. C'est-à-dire que certains de mes collègues font de la sociologie sur la Grande-Bretagne, d'autres font de la littérature américaine, etc., etc. Donc on va retrouver toutes ces disciplines. Donc ici, dans cet ouvrage, ce sont des civilisationnistes. Le premier chapitre est sur l'engagement philanthropique et citoyen de femmes britanniques. Donc je vais redire un mot. Donc je donne les périodes, puisque là on a une épaisseur historique intéressante. Ensuite, la dissension suffragiste sur la citoyenneté des femmes américaines. Donc la dissension, elle se trouve au milieu entre les suffragistes. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être suffragiste et vouloir le droit de vote des femmes, mais on n'est pas forcément d'accord sur ce que ça sous-entend et sur comment on va y arriver, les méthodes, et aussi est-ce qu'on en veut vraiment d'une citoyenneté telle qu'on n'a pas envie de la considérer. Ensuite, la citoyenneté postcoloniale, qui est un article que j'ai traduit pour ce volume. Et enfin, la citoyenneté queer, inclusion et contestation, où la postcolonialité va rattraper les questions de citoyenneté queer. Alors, le premier chapitre sur la protection des oiseaux, donc c'est The Royal Society for the Protection of Birds, qui est donc fondée en 1891, et je vous ai mis les étapes de la réflexion. Donc le contexte, c'est que en 1884, il y a une loi extrêmement importante qui est votée au Parlement après des décennies de campagne par les femmes suffragistes, qui est une loi sur la propriété des épouses. Donc avant 1884, les épouses sont la propriété du mari, totale, c'est-à-dire comme un meuble, hein, c'est une propriété mobilière du mari. Donc si c'est une propriété mobilière, on peut vendre sa propriété. Alors je ne dis pas que tous les époux vendaient leurs femmes. Je veux simplement dire que jusqu'en 1840, on peut voir par exemple dans le Yorkshire, c'est pas très flatteur pour le Yorkshire, des annonces pour le marché municipal, hein, hebdomadaire, vente d'épouses. Hein. Donc ça c'est les dernières choses qu'on voit. Donc c'est pour vous signaler que les épouses donc ne sont pas des individus. Elles n'ont pas le droit de signature. Et ça signifie aussi que quand elles ne sont pas mariées, elles ont le droit de signature et elles peuvent être des héritières, elles peuvent avoir une propriété. Mais dès qu'elles deviennent l'épouse de quelqu'un, elles perdent toute leur existence. Donc l'idée, c'est qu'elles se dissolvent, c'est comme ça que les commentateurs politiques de l'époque le disent, elles se dissolvent dans l'existence du mari. Donc, après 1884, d'après la loi, donc formellement, les épouses sont des individus à part entière. Elles sont donc, elles peuvent être propriétaires. Alors c'est très important pour l'Angleterre parce que ceux qui ont le droit de vote doivent être propriétaires. Donc, tant que les épouses ne sont pas devenues des propriétaires à part entière, elles ne remplissent pas la condition du moment qui est que même les hommes doivent être propriétaires. En 1884, il y a à peu près 1884, c'est en 1886, donc il y a 7% des hommes qui votent. 1886, on a 28%. Donc on voit que la citoyenneté masculine s'élargit alors qu'il y a zéro femme qui vote. Donc être une femme signifie, avant 1884, ne pas pouvoir voter, au point que au début du XXe siècle, les suffragettes, hein, les suffragistes vont ironiser en disant que si on avait laissé l'État anglais faire, bien, les femmes arrêteraient de se marier, hein, parce qu'en se mariant, elles perdaient tout. Et donc, comme c'est une époque où on ne peut pas faire d'enfants, logiquement, si on est femme respectable, sans être mariée, ça voudrait dire que ce serait la fin de la race anglaise, hein, terminologie de l'époque. Donc, on voit comment, dans le domaine philanthropique, dans le domaine associatif, les femmes ont investi dans toutes sortes de domaines, y compris sur la défense des oiseaux, qui est devenue une association extrêmement puissante et qui l'est encore aujourd'hui. Donc je n'ai pas le temps de rentrer dans les comités directeurs, etc. Mais ça, c'est aussi intéressant, comment on négocie, comment une association de femmes se fait récupérer et que de plus en plus, dans le comité directeur, vous avez de moins en moins de femmes. Le chapitre suivant se passe aux États-Unis. Donc on a un peu évoqué, hein, et donc c'est une discussion qui se passe entre suffragistes, c'est-à-dire que la question c'est comment fait-on
pour accepter de devenir une citoyenne américaine, alors même que ce gouvernement américain propose une citoyenneté corrompue parce que esclavagiste. Donc, aux États-Unis, au milieu du 19e siècle, la question du vote des femmes est associée à la question abolitionniste. La grande majorité des suffragistes américaines, donc là c'est carrément 1848, hein, il y a une convention qui pose les choses, la grande majorité de ces suffragistes féminines, enfin femmes et hommes, attention, il y a toujours eu des hommes suffragistes, hein, et il y a eu aussi des femmes anti-suffragistes, donc il faut pas du tout, faut faire attention. La grande majorité est abolitionniste, et le grand combat abolitionniste, c'est la suppression de l'esclavage. Donc, cet État qui fait briller une citoyenneté attirante est en fait un État esclavagiste. Donc, vous avez parmi ces suffragistes essentiellement américaines, parce que là, c'est elles qui sont dans les comités directeurs, disent... Certaines d'entre elles disent « Ah mais non, nous on ne peut pas être citoyenne d'un pays qui est esclavagiste, parce que nous on est contre l'esclavage. Donc c'est impossible pour nous, c'est une vraie corruption morale et politique. » Et il y a d'autres suffragistes qui disent « Nous aussi on est abolitionnistes, mais on pense qu'il faut absolument que les femmes deviennent citoyennes, parce qu'une fois citoyennes, elles pourront continuer leur lutte pour l'abolition de l'esclavage. » Donc vous voyez, deux types de méthodes. Et un sentiment extrêmement profond qui est celui des femmes qui ne veulent pas de la citoyenneté américaine corrompue, c'est-à-dire de partir, de s'exclure du champ politique citoyen que j'appellerais officiel, ne voulant pas se corrompre. Sur la citoyenneté postcoloniale, c'est un article fascinant de Kamal Sadiq que j'ai traduit. Et qui donc nous fait mesurer la grande complexité de la question postcoloniale dans son ensemble, mais en particulier de la citoyenneté postcoloniale. Alors, c'est un article extrêmement riche. Je vais me concentrer sur trois types de récits, et je ne vais même pas vous donner les trois récits, juste le troisième, mais qui nous montre aussi comment la recherche en études postcoloniales progresse dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui étudient, donc ça fait des données beaucoup plus importantes et ça devient vraiment intéressant. Alors, le récit auquel il arrive et qui est son constat pour lui, c'est donc le numéro 3, que les idéaux positifs, donc je lis, hein, les idéaux positifs du nationalisme postcolonial qui encadrait la citoyenneté initiale, furent rapidement éclipsés par le nationalisme majoritariste, les conflits ethniques, les surenchères indigénistes et même le génocide. La brève période de citoyenneté horizontale, étape inclusive de l'État postcolonial, disparut avec le succès de ceux qui revendiquaient une citoyenneté hiérarchique et donc conflictuelle. Avec le temps, donc il parle de plusieurs pays, hein, ce n'est pas un seul pays, c'est à la fois l'Asie, la Malaisie par exemple, mais aussi en Afrique, ça m'échappe, ça va me revenir, le pays en question. Donc avec le temps, on démolit le jus soli, donc le droit du sol, au profit de critères de citoyenneté fondés sur le jus sanguinis, le droit du sang, étroitement défini par le clan, la famille et le majoritarisme. Tandis que le nationalisme anticolonial déclinait, le majoritarisme, tribal, ethnique ou religieux, conquit les pratiques citoyennes. Et donc là, on se trouve devant une définition complexe pour les acteurs eux-mêmes, en fait, il y a un conflit qui va se passer pour les personnes entre un conflit qui réclame la justice pour les minorités, des minorités qui demandent une justice, et des majorités qui leur disent « on est tous égaux, on est majoritaire ». Donc il y a un déni, un refus des minorités qui peuvent parfois être des minorités numériquement importantes. Donc ce qui veut dire que dans cette période, plusieurs décennies après la décolonisation, on va trouver des pays où il y a des gens qui n'avaient pas de papier et qui vont se trouver devenir étrangers dans leur propre pays. Donc ça c'est une des premières contraintes pour les gens, c'est de pouvoir prouver qui ils sont, ou bien alors des gens qui vont être considérés comme des citoyens de seconde zone parce qu'ils n'ont pas la nationalité. Donc là, on a un décrochage total entre la nationalité et la citoyenneté qui crée des problèmes sans fin. Donc on voit la complexité de tous les aspects de cette citoyenneté postcoloniale. Et enfin, le dernier chapitre sur la citoyenneté queer. Donc là, c'est intéressant parce que Sandeep fait une comparaison entre le Nord et le Sud sur la question queer. Donc au moment où dans le Nord, on a une citoyenneté queer qui s'affirme et qui a du succès, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est dans les législations des différents pays du Nord, donc quand on dit le Nord, on pense Europe, Amérique du Nord, hein, c'est, en gros, c'est ça. Donc, le fait que ces gens, la reconnaissance de l'homosexualité, hein, l'homosexualité qui est dépénalisée, le fait que le mariage homosexuel est reconnu, de plus en plus, même si ce n'est pas encore complètement réglé, les questions d'héritage peuvent... Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on parle quand même de la propriété, hein. La citoyenneté, les questions de citoyenneté sont aussi souvent liées à des questions de propriété. Donc, autant ça s'arrangeait dans le Nord pour les gays et lesbiennes, autant dans le Sud, c'est devenu de plus en plus difficile pour eux. Et c'est aussi devenu de plus en plus difficile parce que les migrations ont fait que les gens ont dû se déplacer, donc sont partis d'endroits ou de lieux définis et reconnus et familiers, sont partis en particulier vers le Nord. Et qu'en arrivant dans le Nord, ces gens ne correspondant pas à l'universalisme européen issu des Lumières ont donc été finalement exclus. Donc c'est ce que montre Sandeep dans son chapitre, c'est que en fait autant l'inclusion au Nord pour les queers du Nord c'est finalement bien faite après des décennies, voire des peut-être même plus que des décennies, voire des bref énormément de temps. Que l'apparition de gens qui venaient du Sud ont fait qu'eux n'ont pas pu exprimer et n'ont pas pu avoir la reconnaissance de leur existence de gays et lesbiennes et qu'ils ont été enfermés dans une identité autre, qui est une identité racisée. Donc vous voyez ici aussi combien vous avez des paradoxes, certes, mais aussi des conflits entre communautés, mais aussi des conflits à l'intérieur de communautés qui peuvent parfois partager la même ambition et la même aspiration. Donc c'est une histoire très très compliquée, la citoyenneté, c'est une histoire fascinante. Je vous engage à consulter ce merveilleux ouvrage.
Merci beaucoup Myriam et merci d'avoir respecté.